des personnes qui marchent et qui font du vélo. Moi, je viens d'une région qui est la plus vieille région de France, voire d'Europe, où une question centrale dans l'aménagement des villes, c'est est-ce qu'on peut les adapter à cette question du vieillissement et comment est-ce qu'on fait des villes qui sont adaptées à des gens petit à petit. Alors, il y a la question de l'accessibilité, mais il y a aussi la question de gens qui sont de plus en plus fatigués, alors à qui il faut garder une activité, à qui il faut adapter ses transports pour que quand le tram démarre, il ne se casse pas la figure parce qu'il est démarré trop fort. Voilà. Et je me demandais s'il y avait une réflexion là-dessus, si vous, vous l'aviez eue, ou s'il y avait des agences d'urbanisme qui travaillaient un peu spécifiquement sur cette question-là. Je vous dis pourquoi, parce qu'on est en train de travailler sur un schéma qui a un nom horrible qui s'appelle le SRADET dans notre région, et que je voudrais voir de quelle façon on peut introduire, en particulier dans les rénovations de centre-bourg, cette réflexion sur, eh ben, on fait des bourgs qui quand même vont être utilisés de plus en plus pour des personnes vieillissantes et dont il faut reculer la dépendance, mais qui doivent s'adapter à tous ces niveaux de dépendance.
Alors, mon voisin de gauche me susurrait à l'oreille, quelle est la plus vieille région de France?
Alors, c'est la Nouvelle-Aquitaine. Parce qu'on a, c'est la Nouvelle-Aquitaine parce que on n'était pas très vieux, l'Aquitaine n'était pas très vieille, Côte-Charente non plus, mais alors le Limousin, c'est quand même... C'était déjà la plus vieille région de France.
La ville de Saint-Étienne, l'agglomération un tout petit peu moins bien que Saint-Étienne a un taux de personnes âgées sensiblement important aussi. On a un net vieillissement de la population. Pourquoi ? Parce qu'on a un faible taux en fait d'attractivité et le solde migratoire est beaucoup plus faible que le solde naturel. Et on est en train d'enrayer à un peu plus de 40 ans, on va dire 50, de chute démographique. Donc forcément, on a une tendance structurelle au vieillissement de la population. Donc du coup, la question du vieillissement, pour le dire comme ça, est une question qui est prise de manière déjà assez ancienne et assez sérieuse par les politiques publiques. Il y a un certain nombre de réponses. Nous, quand je dis nous, depuis l'agence, la tête de l'agence, on le regarde, mais plutôt on l'observe. Donc on n'est pas engagé dans les politiques publiques totalement liées au vieillissement. En revanche, quand on fait des travaux sur la santé, la question du vieillissement est toujours pris en compte, ne serait-ce que pour régulièrement agiter le verre et faire remonter la courbe de la question du vieillissement un petit peu au-dessus de la douleur.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a déjà des initiatives, des expérimentations là-dessus ou des adaptations? Il y a déjà une doctrine sur l'aménagement de l'hiver?
Alors, en tout cas, je parlais que localement, il n'y a pas de doctrine. En revanche, il y a un certain nombre d'actions qui sont prises en faveur des personnes âgées et du vieillissement en général, à travers notamment deux choses, des expérimentations sur l'espace public, et notamment au niveau du tramway, où les tramways ont été refaits, où la question plus largement de la mobilité réduite a été prise en compte dans les trams. Les questions d'accessibilité aussi sont prises en compte. Et vous êtes pas très loin de Bellevue, et à Bellevue, vous avez le pôle gérontologique de la ville, qui est un espèce de, je vais pas dire cluster, parce que certains verraient une connotation économique, mais en tous les cas, il y a une espèce de grappe thématique dans la ville qui s'occupe de la question, depuis l'offre d'hébergement, en offre de soins, d'accompagnement, et la ville et le CCAS s'occupent aussi particulièrement de la question du vieillissement. Mais après, je ne serai pas capable de vous dire à l'infini, je vais être honnête avec vous, savoir quelles sont les actions particulières de la ville et du CCAS qui ont été mises en place. Mais je sais qu'elles existent.
Allez, une petite dernière question, madame. Les Hauts-de-France, cette fois-ci.
Non, mais je me demandais, parce que vous citiez la ville de Saint-Étienne, vous disiez que c'est une ville qui a des défauts d'attractivité, des jours, et ce projet que vous menez sur le reste, de l'agglomération, est-ce que vous l'inscrivez délibérément dans une stratégie de reconquête d'attractivité ou vous avez cité des questions de qualité de vie, de bien-être pour les habitants et auxquelles la santé participe? Alors, est-ce que vous êtes dans une approche dichotomique, intégrative de ces deux éléments? Est-ce que c'est explicité, notamment par les élus, pour dire ben voilà, on accepte. On est une ville maintenant qui va se transformer avec un... Voilà. Comment vous posez?
tout ce qui se passe sur le quart nord-est, c'est pas seulement le projet tram, hein, ça fait depuis les années 90 que la ville y réfléchit, c'est inscrit dans le projet urbain, il y a plusieurs mandatures qui sont occupées de ce secteur. Ça a occasionné, quand le maire de l'époque, Michel Thurière, a compris que la ville n'aurait pas les moyens de ses ambitions pour enrayer, en étant en pleine crise d'hémorragie démographique, il n'y aurait pas les moyens locaux pour enrayer cet effet-là. Gros dispositif, le PA, les bases, l'État est intervenu quelque part sur le territoire stéphanois, sur l'ensemble du territoire stéphanois, mais et principalement sur le secteur de reste, il en a fait un petit peu son secteur de, on va dire, d'attractivité future, mais tout ça est compris dans une logique globale. L'État intervient sur la ville de Saint-Étienne, pas seulement par le biais d'établissements publics, mais aussi par de nombreux quartiers en rue. Il y en a dans tout le sud-loire, mais particularité, on a deux quartiers en rue en deux centres-villes qui racontent bien aussi l'effet mosaïque, l'effet un petit peu d'urgence donné par les indicateurs socio-économiques qui étaient assez alarmants dans les années 2000, a occasionné cette approche. Il fallait intervenir d'urgence pour pas que la ville décroche, en fait, à 60 km de Lyon. Il y avait une vraie vision nationale de ça. Donc l'approche sur le projet urbain stéphanois, il a toujours combiné une approche de préserver, sauver ce qui était déjà là, maintenir des populations en place, très axé sur le renouvellement urbain et ces choses-là. Et tout à la fois, c'est là où c'est la dichotomie, elle est peut-être incluse dans une même approche, mais depuis bientôt 30 ans, une idée d'attractivité, parce qu'il faut faire partie, la grande compétition territoriale, il faut peser son poids à la fois au niveau dans le côté multipolaire à côté de Lyon, mais il faut être attractif, il faut construire des logements, c'est tout ce qu'on va voir un petit peu cet après-midi, cette photographie de Saint-Étienne avec des quartiers fragiles en renouvellement urbain qui vont assez lentement, et des quartiers de ZAC de renouvellement, où là ça commence à se voir et ça commence à aller très vite. Enfin, pour moi, il n'y a pas eu un postulat ou un autre, ça a toujours été conduit de façon parallèle.
C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça va moins vite que si on avait dit on laisse tomber un peu à la méthode anglo-saxonne, on laisse tomber une partie de la ville pour se consacrer à la ville punchy qu'on va voir qui deviendra la vitrine. Là, tout est traité de manière concomitante. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'opérations de tiroirs, de déplacements, et donc la régénération est beaucoup plus longue. Pour vous fixer un peu les idées, mais on vous les rappellera cet après-midi. 1968, Saint-Étienne, 225 000 habitants, 222 000. 2015, 171 000. Donc, vous voyez le décrochage de population, fermeture des mines, fermeture de Manu France, fermeture de Giat Industries qui fabriquait les VAB, les FAMAS, et tout ce que vous imaginez en guerre, en armement. Cassage de figures de textile. Donc c'est pour ça que l'État est intervenu massivement et depuis très longtemps, parce qu'il y avait, comme le disait Laura, urgence à ce que Saint-Étienne ne décroche pas. D'où le fait qu'il y ait une opération d'intérêt national depuis 2008-2009, d'où le fait qu'il y a un établissement public foncier particulier qui était là pour permettre la régénération des zones industrielles qui étaient fermées en déshérence, etc., mais qui travaillent pas que sur Saint-Étienne, mais dans l'ensemble de l'agglomération, parce que Saint-Étienne, pour le dire très rapidement, c'est la ville centre qu'on va vous faire le tour rapidement en bus, mais c'est aussi deux vallées très industrielles, la vallée de l'Ondaine qui sépare Saint-Étienne de la Haute-Loire, donc vers Firminy, et la vallée du Gé qui sépare Saint-Étienne de la vallée du Rhône. Et ces deux étaient, et d'ailleurs dans la vallée du Gé, vous avez encore de l'industrie, notamment de la fabrication d'acier, etc. Donc tout ça pour vous dire qu'on revient de très très loin, qu'il y a eu sur des anciens tènements industriels de la régénération, fortement portée jusqu'à la fin des années 2000, avec quand même prise de plein fouet la crise des subprimes qui a fait que toutes les opérations de l'EPA qui étaient en commercialisation ont été quasiment stoppées net, comme pas mal d'endroits en France, du fait d'un manque de solvabilité et d'investissement possible, avec un profil quand même d'investissement à Saint-Étienne qui n'est pas GG, il faut se le dire, parce qu'aujourd'hui, on a une solvabilité relativement minime, et donc un marché de la promotion du neuf relativement minime, parce que lorsque vous achetez à 1000 m², voire moins, l'ancien réhabilité à neuf, vous êtes de toute manière en dessous de l'acquisition en neuf. Et comme on n'est pas dans des zones qui sont des zones de défiscalisation de produits locatifs neufs, ça aussi ne nous aide pas. Donc, enfin, il y a toute une complexité pour de ressort territorial qui fait que l'attractivité est en marche, mais on est au début du commencement, même si beaucoup, beaucoup de choses ont été faites. Et j'espère que le petit tour en ville de cet après-midi vous montrera que pas mal de choses ont quand même été faites, mais il y a encore pas mal de trucs qui sont devant nous, donc il y a du job.